Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Et par Laurence, je précise, puisqu'on n'a toujours pas de jingle approprié. Ouais. Mais comme on est un peu macho à Pluriel Gay, c'est
oui,
normal.
Oui, je subis.
Voilà, donc Laurence est à mes côtés, vous l'avez compris. Et puis Bernardo est aux manettes, comme tous les mercredis.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Bonsoir Bernardo.
Sans Boris.
Sans Boris, oui, parce qu'il
Boris
est à New York.
Boris est à New York, voilà. Petit vénard.
Enfin, il est sur le chemin du retour.
Là. Non, il m'a dit qu'il rentrait dimanche.
Oh, ah, oui, non, non. Voilà. Oui. Il a encore quelques jours devant lui.
Donc nous l'aurons la semaine
vénard.
Prochaine.
Ouais. Voilà. Et bonsoir à notre invité.
Notre invité, c'est donc Alex Chevalier, que nous connaissons déjà bien, nous l'avons déjà souvent eu à l'émission. C'est un habitué.
Et bonsoir.
Bonsoir Alex. Et ce soir, tu es là en tant que... Tu as de multiples casquettes. Et ce soir, tu es là en tant que coordinateur des actions de prévention de l'association ALS. Alors, pourquoi on t'a invité ce soir particulièrement? On est le 25 novembre, dans quelques jours c'est le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est depuis de très nombreuses années le jour consacré, la journée mondiale de lutte contre le sida et le VIH. Donc ALS, dont tu es représentant ici de l'association ALS, tu es donc salarié. ALS a plusieurs salariés, combien vous êtes de salariés d'ailleurs?
On est une dizaine environ.
Une dizaine de salariés. ALS est la plus ancienne association de lutte et de prévention contre la maladie et contre le VIH en France, on dit en dehors de Paris.
C'est ça, hein, en région.
Ouais. En région, pour pas plus dire province parce que c'est politiquement incorrect maintenant. Et donc du coup, voilà, ALS existe depuis 30 ans, c'est son anniversaire. Donc conjointement, le 1er décembre, et les 30 bougies d'ALS, que nous fêtons un peu ce soir, disons.
Tout est... Oui, tout à fait. L'ALS donc a 30 ans cette année, parce qu'elle a été créée en 85. Donc c'est la première effectivement association créée en région. Au départ donc créée par des médecins, pour certains d'ailleurs font toujours partie du conseil d'administration. Et puis après, l'ALS est une longue histoire hein, sur 30 années qui a suivi aussi l'évolution de la maladie. Un peu par toutes ces phases, partout. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était une association principalement de bénévoles, avec énormément d'actions de terrain pour aller justement...
Et au départ, c'était une association, ça l'est toujours d'ailleurs, probablement complètement indépendante d'autres associations.
Oui, tout à fait.
Voilà. Je veux dire, ça n'était pas lié par exemple à la création de AIDE.
Non. Non, non, ça a toujours été une association qui a voulu maintenir son indépendance. Qui n'est que régional aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu le développement national, alors qui par contre peut être appelé et est régulièrement appelé aussi pour être membre d'instances nationales, parce que c'est vrai qu'on a une expertise maintenant d'une trentaine d'années, donc avec une richesse aussi hein, en termes de savoir-faire, d'expertise, etc. Donc du coup, on est régulièrement appelé par exemple sur Paris pour faire partie de certaines instances, mais il y a toujours eu ce développement qui n'est que régional, mais en même temps c'est bien, il faut aussi des associations régionales,
bien sûr, ouais.
Parce qu'on est au plus près aussi du coup des préoccupations locales, hein, on connaît quand même bien notre environnement d'intervention. Et puis oui, l'ALS s'est aussi professionnalisé avec le temps. Au début, c'était beaucoup de bénévoles. On était même monté à 800 bénévoles à un moment donné à l'ALS.
Ah oui.
Et puis après, il y a eu une professionnalisation, donc l'embauche de salariés avec des missions aussi plus précises, avec certains axes qui ont été développés aussi en fonction de l'évolution de la maladie. Enfin voilà. Et aujourd'hui, l'ALS, c'est à peu près une dizaine de salariés avec à la fois des programmes de prévention... en direction des publics migrants, des publics jeunes et des publics incarcérés. Et puis, c'est aussi tout l'accompagnement social des personnes vivant avec le VIH. C'est beaucoup de formation aussi en direction des professionnels. Donc voilà, c'est...
Des professionnels, dans acteurs sociaux et
voilà, ça peut être acteurs sociaux, professionnels de santé, ça peut être dans les écoles aussi, les professeurs des écoles. Enfin voilà, on a tout un volet de formation à destination des professionnels, on va dire socio-éducatifs, médicaux. Voilà, en gros, les actions principales de l'ALS. Et puis, il y a toujours aussi cette volonté de dynamiser un peu le secteur associatif local. Donc, c'est vrai qu'on a coordonné de nombreuses années les actions du 1er décembre. Cette année, on avait décidé de ne pas forcément coordonner, de faire une action justement pour nos 30 ans, avec un événement un peu plus festif que les autres années.
On y reviendra.
Mais et du coup, les autres associations avaient décidé aussi de se greffer à cet événement-là, ce qui était très sympathique d'ailleurs de leur part, parce que c'est aussi une manière de reconnaître un peu le travail de l'ALS depuis ces 30 dernières
Donc,
années.
Donc ALS, c'est Association de lutte contre le sida.
Alors,
tout simplement.
Association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle.
D'accord.
C'est-à-dire que depuis maintenant à peu près un an, on a décidé de rajouter aussi cette question de la santé sexuelle, parce que nos missions maintenant sont beaucoup plus larges. C'est vrai qu'on n'intervient plus que sur la question du VIH, mais sur la santé sexuelle.
Donc, d'autres pathologies liées, par exemple, l'hépatite,
tout à fait.
Les maladies
c'est ça.
qu'on appelait vénériennes,
exactement.
Les IST.
Oui, voilà, maintenant, on est vraiment sur une dimension plus large de la sexualité.
Ouais.
C'est vrai qu'on s'est rendu compte, et pareil, avec l'évolution de la maladie, on s'est bien rendu compte que si aujourd'hui on voulait être efficace, en tout cas au niveau de la prévention, il fallait bien prendre la sexualité dans toutes ses dimensions, et pas que du côté du médical ou de l'aspect VIH. Voilà, parler VIH, c'est parler discrimination, c'est parler, inégalité, c'est parler, enfin voilà, c'est tout ça aussi qui est en jeu.
Il y a des sujets transversaux, de toute façon, impliqués par la prise en compte de la maladie et du VIH. Alors, il y a 30 ans, on était en 1985. Tu étais né déjà, Alex ?
Non, pas du tout. Pourquoi tu ris ?
j'ai ri, moi, c'est vrai.
Non. Toi non plus, d'ailleurs.
Toi non plus. Personne ici n'était né en 1985.
Non, bah non.
En fait, l'association, elle, est née bien née en 1985, en tout cas. Ça, c'est sûr. Au début, donc, 1985, c'était quand même, on dira, les toutes premières années de la pandémie. Et ouais. C'était la panique à l'époque.
Ouais. Et c'est vrai que les premières missions de l'ALS, c'était vraiment d'aller à la rencontre du maximum de monde, notamment en premier, d'ailleurs, c'était les professionnels de santé, pour les rassurer justement sur les modes de transmission du VIH, parce qu'on entendait tout et n'importe quoi à l'époque. En plus, c'était relayé aussi, même déjà à l'époque, par des politiques pas très honnêtes.
Oui, tu penses comme nous tous, je pense à Monsieur Le Pen.
Voilà, par exemple,
Jean-Marie
Monsieur
Le Pen,
père, qui jouait déjà sur les peurs, comme
voilà.
On fait aujourd'hui ça.
Voilà, il avait dit que les sidaïques, qui les appelaient comme ça, transpiraient complètement la maladie, qu'on touchait la main, on était dans la même pièce qu'un sidaïque, on était contaminé.
Ouais. Voilà,
après, il y a eu, sans parler de politique, les médias, les journaux télé.
Oui.
On revoit Christine O'Crane qui parlait de cancer gay. Ouais. Bon, à l'époque, on ne savait pas du tout ce que c'était aussi, donc on peut à la limite l'excuser comme ça, mais c'était très, très maladroit.
C'était la panique totale à l'époque. Vraiment, c'était
la panique, donc du coup, c'est
voilà. C'est et puis, de politiciens, effectivement, qui sont emparés.
Et donc, ces premières missions, c'était vraiment d'aller former les personnels médicaux et puis aussi la population générale, quoi.
Parce qu'il faut rappeler qu'au début, il y avait du personnel médical qui refusait de soigner, par exemple, parce qu'ils craignaient une contamination immédiate, quoi, en fait.
Ouais. Et comme nous, d'ailleurs, les membres de l'association. Enfin, les fondateurs de l'association faisaient partie de ce personnel médical. Voilà, ils voyaient qu'en interne, il n'y avait pas forcément les choses, les outils pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pour ça qu'ils avaient décidé de créer cette association, aussi pour avoir une force de frappe externe à l'hôpital qui permettait d'agir un peu plus en avant auprès de la population, auprès des personnels médicaux, etc.
Puis ensuite, donc, la recherche a progressé. On a commencé à cerner les causes de la maladie. Mmh. Entre-temps, quand même, beaucoup de personnes ont été touchées. Beaucoup de personnes sont mortes. Mmh. C'est aussi un peu le rôle du 1er décembre, c'est de rappeler, c'est un devoir de mémoire, de rappeler les morts de la maladie, qui sont très, très nombreux à travers le monde, en France et ailleurs, pour ne pas les oublier, effectivement.
Vous accompagnez donc les personnes qui ont des questions, les malades, mais est-ce qu'il y a un accompagnement aussi des familles ?
Oui, tout à fait. On accueille évidemment avec les personnes qui ont le VIH, on accueille aussi leurs familles. Parfois, c'est même leurs enfants.
Ouais.
Donc, c'est vrai que quand on parle de suivi des personnes qui vivent avec le VIH, c'est aussi... eux et leur entourage familial, l'environnement. Quoi.
Et donc ALS a suivi, je suppose, toute la recherche médicale et ainsi que l'évolution sociale, je dirais, de la maladie en s'adaptant au fur et à mesure, qu'il y avait des avancées. Bon, il y a eu l'instant de panique, après il y a eu l'instant de la recherche où on essayait de comprendre le problème et de l'expliquer aussi, parce qu'il fallait expliquer, et les préjugés ont la vie dure, notamment on parlait des personnes qui étaient soupçonnées de contaminer immédiatement, comme la fièvre Ebola, tu vois, les autres, et c'est une idée qui a duré, qui a perduré longtemps, le fait que la maladie soit essentiellement associée aussi à l'homosexualité masculine, ça a été quelque chose qui a perduré très longtemps.
Qui dure encore.
Voilà. Après, il y a eu, donc, après la recherche ayant pour but de soigner la maladie, en tout cas, la recherche a avancé sur la médicamentation. On a eu un tournant, c'est le début des années 90, c'est l'arrivée de la trithérapie.
96.
Mmh. Avant, il y avait eu quand même la ZT.
Oui. Mmh. Après, bon, la ZT, il y avait du bon, mais il y avait aussi du mauvais.
Ouais.
Les personnes qui ont... on va dire qui ont été le processus a été un peu accéléré, hein. C'est vrai que
ce qui est terrible, c'est qu'il y a une véritable cobaye à l'époque, gens même qui étaient volontaires, qui
tout
se portaient volontaires, qui se savaient condamnés à mort, hein, quelque part, parce que c'était une condamnation à mort, hein, annoncée au VIH dans les années 80. Il y a eu des survivants, des rescapés, mais on peut le dire,
il y en a, on doit dire qu'ils vivent toujours, hein, et qui vivent très bien de l'époque,
et ces gens là qui étaient sous le couperet en permanence de la grande faucheuse, je dirais, il y en a certains qui sont proposés volontairement, et c'est parce que on sait aussi qu'il y a eu des essais qui ont été faits sur des gens, parfois accélérant même leur mort.
Ça a été un peu les effets qu'a pu produire la ZT justement sur certains patients. Heureusement, pas dans la grande majorité. Et puis après, il y a eu effectivement cette révolution qui était la trithérapie, et là qui a complètement modifié le rapport à la maladie, avec aujourd'hui effectivement on va pas appeler ça les effets négatifs, parce que c'est pas négatif, hein, mais une forme de banalisation, quoi, où effectivement on va se dire bon bah aujourd'hui avec les traitements on peut vivre, on va dire normalement, ce qui est en partie vrai, hein, et que du coup bah une baisse de la vigilance, enfin voilà, c'est vrai qu'on a inversé un peu la tendance, donc aujourd'hui c'est un peu compliqué justement de faire la prévention, parce que à la fois on doit pas faire peur. C'est-à-dire qu'on doit, on n'a plus à avoir peur d'ailleurs, hein, parce que effectivement, si on prend le traitement et qu'on le supporte, bah, il n'y a pas de raison qu'il nous arrive quelque chose. Enfin, on vit plutôt bien. Et puis, et en même temps, il faut toujours expliquer que ça reste compliqué quand même de vivre avec un traitement toute sa vie, que c'est pas non plus, c'est pas de l'homéopathie.
C'est pas anodin.
C'est pas anodin.
Notamment sur les effets secondaires, et puis aussi, on ne connaît pas toujours les.
Ouais, et puis après, nous, on voit bien, même les personnes qu'on reçoit, une vie sexuelle compliquée, le regard des proches qui est compliqué, enfin des proches ou des moins proches, toujours ce phénomène un peu de honte, d'ailleurs.
Oui, parce que ça reste une maladie entachée de morale, en quelque sorte, un peu comme les IST en général.
Exactement, c'est-à-dire que on va toujours se poser la question, mais comment il l'a chopé, est-ce que c'est un pervers sexuel? Est-ce que c'est un toxicomane? Enfin voilà, il y a toujours ces idées derrière qui...
Mais dans toutes ces phases de progression de la maladie, je dirais, au niveau social, sociétal, je dirais, les associations ont joué un rôle très important. Donc il y a eu l'interface, je dirais, interaction avec le monde médical, mais aussi avec les personnes qui se sont retrouvées confrontées au problème et qui ont paniqué et qui ne savaient pas vraiment à qui s'adresser. Les associations ont joué, il faut quand même rappeler, le rôle crucial associations de lutte contre le sida, dont ALS à l'époque. Donc vous avez évolué aussi en fonction de l'évolution des choses. Les trithérapies sont arrivées. Donc vous avez accompagné aussi un petit peu à ce moment-là, les patients qui souhaitaient prendre des trithérapies, ou vous avez senti que ces patients étaient plus à l'aise pour aller directement en milieu hospitalier et faire ce qu'ils avaient à faire de façon anonyme ou...
Nous, on a toujours été présents à n'importe quelle phase, on va dire, parce que les personnes, autant le droit commun existe, hein, les hôpitaux, les assistants sociaux et autres, mais de par la spécificité de cette maladie, il y a certaines personnes toujours qui vont préférer venir dans une association de lutte contre le sida parce que, voilà, ils ont l'impression, et à juste titre, je pense, d'être mieux accueillis, d'être mieux compris.
Pas jugés,
etc. Et c'est vrai que... Alors après, les publics changent. Hein. C'est vrai qu'on reçoit plus forcément les mêmes publics qu'il y a 10-15 ans. Mais il n'empêche que, on va voir toujours des personnes vivant avec le VIH qui viendront plus facilement, plus tranquillement dans une association de lutte contre le VIH que dans le droit commun, parce que voilà, par peur aussi du regard des autres, par peur du regard de la société, peur d'être jugé, peur de, d'être éventuellement discriminé. Enfin,
alors, de cette époque dont on parlait, les années 80, le début de la pandémie, à l'époque, c'était la panique, on ne savait pas effectivement quels étaient tous les ressorts de la maladie. Tout le monde est tombé des nues, en fait. Et à l'époque, ont été pris des dispositions, justement, pour protéger au maximum les personnes environnant la maladie. Par exemple, je pense aux soins post-mortem qui, à l'époque, ont été interdits aux personnes, enfin, en tout cas, des personnes décédées du sida n'ont pas le droit à des soins post-mortem. Une loi de santé en a décidé ainsi. Or, cette loi est toujours appliquée, par exemple, aujourd'hui, ouais. Alors qu'on connaît la maladie, on connaît les modes de transmission, on sait comment s'en prévenir, s'en prémunir, en tout cas. Et pourtant, c'est soins post-mortem sont toujours interdits aux personnes décédées des suites d'une maladie ou décédées mais ayant le VIH, quoi, même si ce n'est pas suite directement d'une mort causée par le VIH. C'est toujours en vigueur. Et comment on peut expliquer que ça perdure encore?
Alors là, je ne saurais
c'est
même
vraiment
pas expliquer.
Oui, mais ça, c'est une des revendications de certaines associations.
Mais je pense que c'est assez peu relié quand même en termes de revendications. Mmh. Je pense qu'il y avait, s'il y avait un lobbying un peu plus fort là-dessus, effectivement, les choses bougeraient.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas une... voilà, il y a quelques associations qui le portent, hein, ce message-là, mais elles sont rares.
Ouais.
Je pense que sur la question du sang, par contre, du don du sang,
ça
a été beaucoup plus actif au niveau des combats associatifs, et on se rend compte que bah voilà, quand les choses finalement sont pas réclamées à un moment donné, bah, le législateur il met du temps parce que c'est vrai que d'un point de vue médical il y aurait aucune raison aujourd'hui qui pourrait justifier encore cette loi
mais Marisol Touraine elle avait pas mis le sujet sur le tapis il y a quelques mois.
Elle en a mis beaucoup sur le tapis.
Sur le tapis ou sous le tapis.
Sous le tapis, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est bien aussi de rappeler que les associations ont aussi ce rôle-là de faire le lien entre le politique, la société civile, je dirais, et le politique. Que sans les associations qui sont là pour aiguillonner, parfois les politiques, un peu dans leur bulle,
C'est un rôle de plaidoyer. Ouais. C'est vrai que une des associations qui le fait le mieux et qui est les plus combatives, ça reste l'association AIDE.
Oui.
C'est vrai qu'ils ont quand même porté énormément de combats tout au long de ces années.
Dont certains ont abouti. Voilà. On en parlera tout à l'heure.
D'autres moins, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi le rôle de cette association. Alors c'est vrai que l'ALS a moins été dans ce rôle de plaidoyer. On l'est plus au niveau local. On l'est aussi par certaines instances, puisqu'on avait été membre pendant très longtemps de l'UNALS, l'Union nationale des associations du contre le sida. Et qui elle justement faisait ce rôle, enfin assurait ce rôle de plaidoyer, mais c'est vrai que ça tenait aussi par rapport à notre taille. Enfin voilà, quand on est une association régionale, quand tu vas gueuler à Paris, bon bah t'es gentil, mais quand t'es une association nationale, tout de suite ça n'a pas la même portée. Donc c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs, les associations s'étaient regroupées au sein d'un collectif aussi, justement pour qu'il y ait une parole commune qui soit portée et qui soit un peu plus portée plus haute. Mais c'est vrai que le rôle de l'associatif, en tout cas sur la question du VIH, en termes d'avancée sociale et autres, a été en tout cas assez déterminant.
Donc l'ALS maintenant s'est adapté, je dirais, aux circonstances actuelles. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une charge émotionnelle beaucoup moins forte liée au sida et au VIH. Oui. Donc l'ALS a étendu, comme tu le disais, sa palette d'activité, si j'ose dire, à la santé sexuelle en général. Et ben, c'est une chose sur laquelle on reviendra, un thème sur lequel on reviendra après, parce que je voulais, en relation donc avec, parce que tu étais venu, nous nous en souvenons très bien, pour nous parler du nouveau centre de santé sexuelle dans lequel tu es partie prenante, qui a ouvert à Lyon en collaboration avec les hospices de Lyon, si je ne m'abuse.
Ouais.
Hein, vous travaillez avec l'hôpital Édouard Herriot.
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc justement, ça sera l'occasion, comme nous t'avons sous la main, on va en profiter. Et on pourra, on demandera aussi des nouvelles du centre de santé. Puis on reviendra un petit peu sur l'événementiel du 1er décembre. Mais on parlera aussi de ce que nous avons commencé à aborder, le don du sang et aussi la PrEP, puisqu'il y a eu deux informations très importantes en novembre concernant le sujet du jour. Oui, madame.
Mais moi, j'ai une question. Je reviens sur les soins post-mortem. Moi, j'ai une question qui est peut-être... bête, mais enfin, très concrètement, une personne aujourd'hui qui meurt des suites du sida, en gros, elle meurt Et qui s'occupe, enfin, il se passe quoi? Qui s'occupe du corps? Puisque, enfin, il n'y a pas de soins qui sont, enfin...
Bah, le corps, si tu veux, est livré, entre guillemets, plus ou moins tel quel à la famille, quoi.
D'accord.
C'est que normalement, tu as les soins funéraires.
Oui, il n'y a pas ce qu'on appelle la thanatopraxie.
Voilà.
Ouais.
Les thanatopracteurs ne peuvent pas intervenir, par exemple, sur un...
Donc, ils donnent le corps comme ça à la famille, oui. Et c'est démerdez-vous.
Non, bah, alors, il peut être maquillé, c'est plus tout ce qui est... Tu sais, on enlève les viscères, etc.
Ouais, ouais. Pour l'embaumement, par exemple, pour les personnes qui souhaitent être embaumées, on enlève effectivement les viscères.
C'est un peu glauque, tout ce que...
Ouais.
non, mais c'est concrètement, j'arrivais pas à me...
Mais c'est, voilà, c'est
sur ce bon appétit.
Savoir exactement.
mais c'est sûr. Et dans le cas, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour les personnes malades du VIH, mais dans certaines maladies, c'est que certains corps sont mis sous plomb, en cercueil plombé.
Ah bon?
Oui. En cas de, par exemple, pour certaines maladies très contagieuses.
Oui, Ebola, quoi. Oui.
Voilà, Ebola.
Oui, d'accord.
Okay. On n'en est pas là, mais.
Non, je ne pense pas quand même que les. Mais je suis persuadé qu'au départ, il y a dû avoir des traitements des corps décédés du sida dans les années 80, comme s'ils ont été traités comme s'ils avaient la fièvre Ebola ou d'autres maladies hyper contagieuses.
La peste.
La peste, exactement. D'ailleurs, on parlait de peste à l'époque aussi, hein, quand on parlait du sida. La peste gay, le cancer.
Je ne regrette pas ma question.
Voilà. Mais il n'y a pas de question bête. Il n'y a que des réponses bêtes. Est-ce qu'elle t'a satisfait, la réponse?
Oui.
Voilà. Donc, on va faire une petite interruption. Alors, double interruption d'abord, de la musique, parce que tu nous as mis du Étienne Dao.
Oui. Alors, parce que Étienne Dao, du coup, il a sorti un best-of. Et du coup, j'ai trouvé une chanson qui date de 1988. C'est un duo avec Daniel Darc. Qu'on adore.
Oui, voilà. C'est vrai.
C'est une chanson
de regretter Daniel Darc.
Ouais, qui s'appelle La Ville. Et du coup, je trouvais bien. Ça fait la double actualité, celle de Dao et celle des attentats de Paris, parce qu'il parle, on suppose, de Paris. Et il parle de la ville, de tout ce qu'il y a de bien dans la ville, tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qu'il déteste dans la ville, mais que finalement, ils se disent, après tout, c'est toujours notre ville et on l'aimera toujours. Voilà. Et après... Très jolie chanson.
Ouais. Alors après, c'est la chanson d'Étienne Dao. On va retrouver donc Thomas Dupuis. Thomas Dupuis qui a réalisé donc le livre sur les années Guépier. Mm-hmm. Il est souvent question d'ailleurs du sida, du VIH au cours de nos entretiens avec Thomas Dupuis. Donc cette fois-ci, ce sera donc l'année 1990. Ouf. Nous n'étions toujours pas nés, évidemment. C'est bien connu.
Bernard, il est de 89.
Bon, ben lui, c'est un ancêtre, oui, c'est sûr. Et du coup, ben, on va d'abord se mettre Étienne Dao, si j'ose dire. Et puis Daniel Darc, je vais y arriver. Et ensuite, on enverra Thomas Dupuis. On mettra Thomas Dupuis en orbite pour les années Guépier. Merci Bernardo. Étienne Dao, Daniel Darc.
La ville est pleine de méchants, la ville est pleine de bruit, la ville est pleine de cris. La ville est pleine de flics, la ville est pleine de trafic, la ville est pleine de tueurs. La ville est pleine de voleurs. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. La ville est pleine de putes. La ville est pleine de disputes, la ville est pleine d'ordures, la ville est pleine de blessures. La ville est pleine de fous, la ville est pleine de dégoût, la ville est pleine d'ennuis. La ville est pleine de fusils. ça peut faire. Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. Le brouillard sous la ville m'empêche de voir les yeux des filles. Alors je crois qu'ils sont bleus.
Je me souviens des tiens. Ouais, ils étaient bleus.
Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, j'en ai rien à faire. Juste la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. Juste la vie.
Eh bien, nous sommes de retour avec Thomas pour la suite de notre série sur les années guépiers. Thomas, donc, qui a fait paraître aux éditions des Ailes sur un tracteur le livre du même nom, Les années guépiers. Donc, que pourrait-on dire sur l'année 1990?
Que c'est l'année de mon bac et de mon permis. Mais ça, les auditeurs s'en fichent royalement.
Mais quand même, c'est important.
1990. On va commencer par exemple par une page média où la question de l'homosexualité commence à, enfin continue de vraiment occuper, prendre sa place dans les médias. On a La Marche du siècle qui est une grande émission de société animée par Jean-Marie Cavada sur la 3, sur FR3 à l'époque, qui consacre un numéro à l'homosexualité. On a Bernard Pivot qui reçoit Apostrophe. Alors Apostrophe, c'était la grande émission littéraire sur la 2 de ces années-là, des années 80, on va dire. Donc Bernard Pivot reçoit Hervé Guibert, qui a connu un très grand succès avec « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », qui raconte en fait, au travers de quelques livres à partir de celui-là, son propre sida, sa propre maladie, etc. Et qui va après, on en parlera dans d'autres numéros prochainement, qui va après aussi filmer sa mort en parallèle. Toujours dans les médias grand public, on pourra citer, même si c'est pas totalement lié, mais les grands débuts d'Alex Taylor, le bel Alex Taylor sur Continental, qui était une émission quotidienne sur France 3, et Alex Taylor qui maintenant officie sur Europe 1 après avoir officié sur Radio France pendant des années, n'a jamais caché sa propre homosexualité. Alors c'était pas du tout une émission homosexuelle, mais ça a été un des premiers animateurs out en France. Alors en 89 par exemple, on a en 90 on a Bruno Mazur qui fait son coming out, puis qui dit non finalement je suis bisexuel, etc. Ça a toujours été très compliqué, mais il y en a quand même, voilà, qui assument depuis le début. Au niveau de la presse généraliste, on pourra aussi citer des dérives avec Voici qui apparaît dans ces années-là, je crois, et qui fait un grand coup en révélant la séropositivité d'Anthony Perkins, l'acteur américain qui a marqué des générations dans Psychose. Et donc Voici va révéler sa séropositivité. Effectivement, Anthony Perkins décédera dans les années qui suivent, dans les mois qui suivent. Au niveau médias homosexuels, Fréquence Gay, qui est devenue entre-temps Future Génération, qui se cherche depuis des années, depuis sa création, arrête une nouvelle fois ses émissions. Et voilà, petit à petit, véritablement, là, en 90, va commencer à prendre du recul par rapport à la question homosexuelle. Ils ont déjà changé de nom, mais ça va aller crescendo. Après les médias, on va parler de la consommation. De petites anecdotes, alors qui là ont marqué la première, surtout les gays parisiens, c'est IEM, IEM qui ouvre un immense sex shop gay, rue Saint-Maur, de plus de 1000 mètres carrés sur deux niveaux. C'était un truc immense, un peu froid d'ailleurs. Mais voilà, IEM s'établit, ils en sont à cette époque-là, ils ont trois magasins. Bon, maintenant ils se sont repliés sur les halles, mais c'était aussi une explosion qui permet d'acheter des vidéos, d'acheter un peu de tout. Et en 90, alors là aussi c'est un éternel balancier sur cette question-là, nouvelle interdiction du poppers. Alors qui continue, alors à l'époque on pouvait pas l'acheter sur internet quand c'était étranger, mais on a toujours des réseaux de revendeurs voilà, sous le manteau, voilà. Donc là aussi l'histoire du poppers, quand on voit, c'est arrivé je crois dans les années, au tout début des années 80, mais ça a pas arrêté d'être interdit, puis remis sur le marché, puis interdit, voilà. Toujours une histoire très controversée. On va parler un peu du sida en 90, parce qu'on est obligé toujours. Je parlais tout à l'heure d'Hervé Guibert, invité à Apostrophe. Lors d'une précédente émission sur 1989, je disais qu'on avait vu une première campagne de pub qui montrait un séropositif. Là, en 90, on a une toute première affiche qui montre un couple d'hommes. Alors je crois que c'est celle-là où effectivement on voyait deux hommes sur un balcon au réveil qui tenaient un bol, voilà, visiblement ils venaient de se lever, de prendre la... Bon, c'était très soft, hein. Mais c'est la première fois quand même qu'on a une affiche qui émane des pouvoirs publics qui montre un couple de garçons. On notera quelques décès de personnalités, alors plus ou moins connues. Reynaldo Arenas, l'auteur... Jean-Marie Combette, qui était l'un des deux fondateurs de la revue Masque. Revue Masque qui est née en 79, qui a duré quand même quelques années, qui elle aussi a marqué, alors qui n'était pas du tout sur l'actu comme était le guépier, qui était plus un truc de réflexion et d'études. Voilà, donc Jean-Marie Combette meurt du sida en 90. De même, alors là par contre, était beaucoup plus connu du milieu que David Girard. Donc David Girard, on en a parlé lors de précédentes émissions, c'était le roi de la nuit parisienne, qui avait des boîtes, des restaurants, des saunas, un gars parti de rien, qui a commencé en tapinant, et qui a monté un véritable empire gay, voilà, et qui est décédé du sida en 90, de même que Michel Guy, qui était, alors il n'était plus au moment de son décès, mais qui avait été secrétaire d'État à la culture de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le front du sida, peu de changements sinon. Je parlais là aussi en 89, quand on avait fait la chronique des années 89, de ces ligues de vertu qui profitent en fait de la question du sida pour essayer de remettre de l'ordre moral dans la société. Et on pourra noter, c'est la première fois que je vois son nom apparaître, une certaine députée des Yvelines qui s'appelait Christine Boutin, qui en 90 fait voter une taxation à 30% des messageries téléphoniques ou Minitel à caractère pornographique. Donc là, ça va être le cheval de bataille, justement, des ligues de vertu. Alors, il y en a d'autres qui vont s'y mettre après les années suivantes, mais on va attaquer ces réseaux-là de rencontres. Voilà, il n'y avait pas Grindr à l'époque. Donc on va les attaquer sous l'angle « on ne vous interdit pas, mais par contre, on vous surtaxe ». Donc je crois que les taxes vont monter jusqu'à plus de 50% même. Voilà. Et donc là, en 90, ce Boutin commence à y aller fort. En 89, j'ai parlé de la naissance d'Act Up à Paris. Donc Act Up existait aussi dans notre capitale, et on l'a dit, et Act Up, voilà, continue ses actions, voilà, le début des années 90, c'est vraiment les grosses années d'Act Up. Alors en Géorgie par exemple, on les voit manifester contre les lois anti-sodomie. Donc on dépasse le strict cadre de la lutte contre le sida pour aller vers de la défense des droits homo. À Washington aussi, Act Up fait acte d'action de lobbying en incitant, et ça va assez marcher, en incitant les gays à boycotter la marque de cigarettes Marlboro, parce qu'ils ont découvert que Marlboro avait financé la campagne d'un sénateur homophobe. Donc du coup, voilà, via Act Up, en fait, les gays se rendent compte qu'ils ont quand même un pouvoir et qu'ils peuvent l'utiliser. Voilà. Alors, d'autres formes, alors là c'était pas Act Up, mais on voit aussi le monde gay qui recommence à se mobiliser. Là c'est à Montréal, au Québec, Il y a eu une vague de répression des flics contre les homos. Et du coup, là, alors on est plusieurs années après Stonewall, mais les homos font un sit-in devant un commissariat de police et font, c'est la première fois aussi que j'en entends parler, un kiss-in, c'est-à-dire tous les homos qui s'embrassent dans la rue, etc. Voilà, donc on a de plus en plus de visibilité et de revendications. Je parlais la dernière fois aussi, donc on est dans la continuité, du mariage gay qui avait été autorisé au Danemark en 89. La Suède va déposer un projet de loi pour un partenariat gay, mais par contre, c'est rejeté là-bas. Alors qu'en Californie, par contre, la proposition K, donc une proposition de loi fédérale, entérine la notion de partenariat domestique. On n'est pas du tout, enfin, on n'est pas dans une, comme le PAX ou autre, dans une forme d'union réservée aux gays, mais dans un partenariat domestique étendu à la question gay. La grande affaire qui va défrayer la chronique dans les années 90, c'est celle de la disparition du pasteur Doucet. Alors le pasteur Doucet, c'était un pasteur protestant qui avait fondé dans les années 70, je ne me souviens plus en quelle année exactement, le Centre du Christ Libérateur, qui était en fait une espèce d'église, on dira, qui était adossé aussi, il avait une librairie dans le 17e arrondissement, et c'était en fait un pasteur un peu dévoyé, qui mariait des couples homo, qui était très engagé sur les questions de l'homosexualité, du sadomasochisme aussi, de la transidentité, on va dire. Donc c'était un pasteur très progressiste et très visible dans la communauté. Il n'hésitait pas à sortir dans les soirées, etc. Et en 90, au début de l'été, je crois que c'était, un soir, le pasteur Doucet, qui était avec son ami dans leur appartement, reçoivent la visite des RG, qui demandent au pasteur Doucet de le suivre, et on ne retrouvera jamais le pasteur Doucet. On va le chercher pendant plusieurs mois, il y a un comité de soutien qui se met en place, et finalement, il sera retrouvé nu et mort dans la forêt de Rambouillet. Et là commence en fait toute une histoire assez étrange où tout le monde va s'y mettre un peu dessus. Alors ça aura du retentissement quand même aussi dans la presse grand public. Mais le guépier va être particulièrement attentif à suivre l'enquête et tout ce qui va se faire, si bien que j'ai eu l'occasion de rencontrer des anciens journalistes de l'époque qui étaient justement, qui couvraient l'affaire. A priori, la disparition du pasteur Doucet, c'est la seule fois où le guépier, la rédaction du guépier, a reçu, on va pas dire des injonctions, mais des conseils de l'État pour mettre à sourdine. Voilà. Le pasteur Doucet, donc, sa mort n'a jamais été élucidée. Les RG, a priori, sont impliqués. Il y avait une équipe qui le suivait. Il y avait apparemment une deuxième équipe aussi qui le suivait. Enfin, c'est une affaire qui pue, clairement, qui de temps en temps, on en entend un peu parler, mais qui n'a jamais été résolue. Et voilà. Alors, Jean Edernalier a sorti des pistes, comme il savait le faire à l'époque, et qui n'ont jamais été écoutées ni entendues. Je ne sais pas du tout s'il faut leur accorder du crédit ou pas. Mais ça a été, voilà, la grande affaire mystérieuse, on va dire, de cette année-là, qui a touché la communauté des gays, parce que le pasteur Doucet était quand même un des représentants de la progression des lois, des droits, de la représentation de l'homosexualité dans la société. Le Centre du Christ Libérateur essaiera de perdurer quelques années, mais ça va pas vraiment survivre à la mort de son fondateur. La librairie sera finalement fermée, et puis petit à petit, l'association va disparaître. Voilà à peu près ce que j'avais à vous raconter sur l'année 90. Si, une dernière chose que j'allais oublier, qui pourtant aurait dû arriver tout de suite, c'est en décembre 90 que naît à Paris la Maison des Homosexualités. Alors la Maison des Homosexualités a été définie dès l'origine comme une expérimentation de centres gays et lesbiens à Paris. À ces époques-là, les associations, à la fois homosexuelles et de lutte contre le sida, militaient pour la création d'un lieu ouvert dans le cadre premier de la lutte contre le sida. C'est-à-dire que le credo, c'était « il faut un lieu d'information où les communautés, alors homo ou pas, puissent en fait venir chercher du conseil, de la documentation, etc. Donc il y a eu pendant quelques mois des débats entre est-ce qu'il faut un centre homosexuel ou un centre de lutte contre le sida. Et au final, donc, la mairie de Paris est intervenue. À l'époque, l'ancienne ministre Michèle Barzac était adjointe au maire de Paris, chargée de toutes ces questions-là. Et en fait, ils ont décidé d'ouvrir un centre plus axé sur la question gay, donc qui va ouvrir au 45 rue Michel-Lecomte, dans l'ancien appartement de Fabrice Edelman, là où était née d'ailleurs l'association AIDE. Et donc, la maison des homosexualités, alors bizarrement, n'a jamais eu de statut juridique. C'est-à-dire, ça n'a pas été une association. Ça a été un truc un peu informel, porté par d'autres associations. Soutenu à 100%, il y avait quand même un puis deux salariés soutenus par les pouvoirs publics, parce qu'en fait, c'était intégralement financé par l'Agence française de lutte contre le sida. Mais c'était une maison des associations un peu, voilà, théoriquement ouvertes au public, il y avait des salariés pour ça, sauf que c'était dans 45 mètres carrés, dans une arrière-cour, donc en fait, ça, c'est, le public connaissait pas vraiment, c'était pas assez ouvert au public, et du coup, c'est resté surtout un centre pour les associations. La formule va durer, en fait, jusqu'en 93, parce que dès le départ, c'était une expérimentation. En 93, la FLS, donc Agence française de lutte contre le sida, dira, ben voilà, l'expérimentation arrive à son terme. Et donc, c'est ce qui donnera naissance au centre gay et lesbien. À noter que la Maison des homosexualités, qui avait d'ailleurs sa propre publication, qui s'appelait le Gay Bulletin, va aussi essaimer. Il va y avoir une Maison des homosexualités ouverte à Tours. Il va y avoir plusieurs maisons des homosexualités petit à petit en France qui, à leur tour, deviendront aussi des centres gays et lesbiens. Voilà sur la note sur laquelle je voulais finir pour l'année 1990.
Très bien, merci Thomas. Et on se retrouve donc logiquement pour l'année 1991.
C'est bon, tu suis. Bonne soirée.
À bientôt.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Et bien voilà, nous sommes de retour en direct dans les studios. Ça fait bien de dire les studios. Ouais, ça fait Paramount, tu sais, un grand studio géant.
Radio France.
Avec Alex, donc, en notre compagnie, Alex Chevalier. Nous avons parlé des 30 ans de l'association ALS, Association de lutte contre le sida lyonnaise. Dans la petite interlude concernant les années guépiers que nous venons d'entendre, on parlait aussi d'ACT UP, c'est une association qu'on peut évidemment, c'est une des grandes associations de lutte contre le sida, qui elle a aussi porté beaucoup de combats, je dirais, à leur manière. Hyper gay. Alors, on a eu l'occasion de parler de hyper gay. Je voudrais qu'on en revienne, on revienne un petit peu dessus, mais assez rapidement parce que malheureusement, l'heure tourne. Le programme hyper gay, qui a été lancé en France, c'était un programme d'études, en fait, sur la prophylaxie, en fait, prendre de manière préventive la trithérapie, enfin, les médicaments, pour éviter les contaminations, la contamination au VIH. Bah,
c'est le Truvada. Enfin, c'est une molécule, en
voilà,
tout cas, qui...
Voilà. Or, il se trouve que Marisol Touraine a annoncé, entre autres annonces au mois de novembre, a annoncé, c'était lundi, c'est tout récent, avant-hier, que finalement la PrEP serait disponible, ce qu'on appelle la PrEP, donc c'est ça, hein, méthode prophylactique pour éviter la maladie, par l'intermédiaire donc du Truvada, donc la PrEP serait disponible et remboursée par l'assurance maladie. Voilà. Alors, justement, moi je pense, enfin à titre personnel, que c'est assez révélateur de l'époque où on vit, où on a oublié ce qu'a été la maladie, justement. Donc, il y a un protocole de prise en charge, évidemment, mais qui est un peu à la demande, déjà. Ça dépend des protocoles. Il y a des protocoles où c'est une prise permanente. Et là, c'est un protocole, le protocole français, en tout cas, c'est vraiment à la demande. Ça veut dire, tu vas te dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais ou demain, je vais baiser. Donc, je vais aller à la pharmacie, prendre mon médicament. Et puis... Et ça, c'est-à-dire, remboursé par la Sécurité sociale.
C'est-à-dire qu'il faut le prendre un certain nombre d'heures avant le rapport sexuel, c'est ça?
Oui, alors après, il y a un protocole qui met en place. Alors, ils ne vont pas aller à la pharmacie. Normalement, ils sont suivis. Le protocole n'est pas encore sorti. Hein. Il y a juste eu l'annonce, là, pour l'instant. Mais normalement, ils devraient être suivis par un médecin. J'im- j'imagine que ce sera en milieu hospitalier ou peut-être un médecin de ville, pour justement rentrer dans ce protocole et avoir accès à la PrEP. Donc là, on attend les détails parce qu'on ne sait pas encore comment ça va être décliné. Le traitement, normalement, est pris quelques heures donc avant le rapport sexuel, une prise avant, une prise après. Donc après un rapport sexuel à risque, que l'on sait qu'il va être à risque.
Donc c'est-à-dire sans préservatif.
Sans préservatif. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui correspond relativement bien aux personnes qui ne se protègent pas de toute manière, ce qu'on appelle les personnes à haut risque, qui pour différentes raisons en tout cas ne mettent pas de préservatif, parce que je sais pas, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'en ont pas envie, enfin pour X raisons. Et du coup, la PrEP, en tout cas, on a cet espoir hein, que ça évite effectivement des nouvelles contaminations chez ces personnes dites à haut risque. On va voir si ça est réellement efficace. En tout cas, sur le test hyper-gay, ils ont montré son efficacité, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait 80% de...
Voilà, mais à 80%, je dirais seulement, il reste quand même 20%.
Voilà, après, c'est vrai que l'inconvénient de cette étude, elle a été faite sur peu, quand même, de participants. Au départ, ils partaient, je crois, sur 1000, il fallait à peu près qu'il y ait une cohorte de 1200, 1500, voire 1600 même participants, puis finalement, c'était 400. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une étude à 400 personnes. Les autres études qui avaient été menées par ailleurs aux États-Unis ou dans d'autres pays, là, ils avaient mobilisé 1600, 1800 personnes. Ouais, on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est vrai que là, les résultats à la France sont assez exceptionnels. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais au-delà de ça, moi, j'ai quelques doutes je pense que certains vont éviter d'être contaminés grâce à cela. Certains. Mais je pense pas que
c'est pas une garantie à 100%.
Je pense pas qu'on va réduire, en tout cas, le nombre de nouvelles contaminations. Aujourd'hui, on est sur un chiffre relativement stable depuis des années. On était entre 5 et 7 000. C'est un nouvel outil qui va peut-être être très efficace pour certains, mais en tout cas, je n'imagine pas que grâce à la PrEP, comme certains le pensent, par exemple, on va arriver à un taux de contamination zéro.
Ouais.
J'ai du mal à le penser.
Avec un message quand même un peu nocif, je dirais, dans la mesure où on peut dire finalement la capote n'est plus le... Voilà, pendant des années, on a axé la prévention sur le préservatif. Seul le préservatif protège à 100%. Ce qui n'était pas complètement vrai à 100%, mais c'est vrai qu'il y avait une garantie de protection assez élevée. Là, ça veut dire finalement, c'est donné raison à certaines personnes qui disaient « Mais on n'a pas besoin de la capote, et puis c'est emmerdant, la capote, effectivement, c'est gênant, c'est si, je ne veux pas en mettre. » Bon, voilà.
Disons que c'est vrai que les messages, les campagnes de prévention maintenant en direction du préservatif, on en voit quasiment plus. Alors, c'est vrai que on va dire la gamme maintenant préventive s'est ouverte. On a différents outils pour prévenir. Mais c'est vrai que celui qui reste le plus efficace, ça va être le préservatif, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Donc après, moi qui ai des nouveaux outils de prévention, je trouve que c'est toujours une avancée et c'est toujours peut-être la chance de voir moins de personnes se contaminer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le tout, c'est que ça soit pas le seul message, qu'on n'oublie pas les autres, et notamment le préservatif. Qu'on n'oublie pas aussi, et moi ce qui me dérange un peu, c'est qu'aujourd'hui on est dans une phase un peu de surmédicalisation aussi de la sexualité. Alors certains vont me dire que t'es vieux jeu, maintenant il faut aussi faire avec les nouveaux traitements. Oui, il faut faire avec, mais tu vas prendre une pilule pour éviter de te contaminer, tu vas prendre une pilule parce que t'as du mal à bander, tu vas prendre une pilule parce que, c'est bien, mais ça veut dire que ça nous rend dépendants aussi du médical. Tout ce qui nous rend dépendants, c'est des libertés en moins. Et le jour où tu as un labo dans un excès de folie qui vous dit « Ok, les cocos, maintenant, je vais tripler mes tarifs parce que finalement, je vois que ça marche bien et que vous en avez besoin, que vous êtes un peu dépendant de tout ça. » On sera dépendant, effectivement, de ce laboratoire. Donc, il faut aussi se méfier, à mon avis, de s'être... C'est vrai que c'est bien, la médecine fait énormément de progrès, tant mieux. Mais la surmédicalisation de la sexualité, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne chose non plus. Et puis, il y a une forme de déresponsabilisation un peu aussi. C'est-à-dire que, en gros, je me décharge, c'est-à-dire de mes responsabilités. C'est à vous d'assurer ma protection. Je ne suis pas en capacité de le faire pour X raisons. Et bien maintenant, je vais finalement mettre ma sécurité entre les mains du médical, d'un labo, de je ne sais qui. ça aussi, il faut se méfier parce que un jour, ça peut basculer. Donc,
Puis, et tout à l'heure, on parlait de cobayes. Est-ce que c'est pas aussi un peu ça, finalement, le fait de faire tester sur...
il y a eu des essais, donc HyperGuest, c'était des essais sur être humain, hein, c'est-à-dire que...
Pour éventuellement mener à un vaccin ?
Alors, là, pour le coup, non, parce que l'objet de l'étude, c'était juste de montrer que grâce à cette prise de médicaments avant le rapport sexuel, on pouvait éviter une contamination. Alors, sur des vaccins, aujourd'hui, il y a des tests qui sont menés, pour l'instant, sur des animaux. Je crois qu'il y a quelques vaccins qui sont en train d'être testés sur des êtres humains, il me semble, dans les recherches actuelles. Mais c'est vrai que là, par exemple, HyperGuest a été testé sur l'humain. C'est-à-dire, quand ils ont fait le test, il y avait la moitié qui avait effectivement le traitement, l'autre moitié qui était sous placebo. Voilà, c'était un risque à prendre. Hein. De toute manière, les personnes l'ont fait de manière volontaire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont eu du mal à recruter aussi, parce que c'est quand même pas évident de faire la démarche. après, au bout de très rapidement, ils se sont rendus compte que il fallait enlever l'effet placebo, parce qu'en plus, ça montait un peu au créneau. Ils se sont dit, là, quand même, on risque quand même d'entraîner une contamination chez certaines personnes. Donc là, ils ont mis après tout le monde sous traitement, enfin, en tout cas, sous le traitement Truvada. Bon, voilà, moi, j'attends de voir, avant de me réjouir, de sauter au plafond, de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que, effectivement, ça va changer radicalement nos chiffres.
Et puis, éthiquement, je dirais, c'est peut-être un point de vue moraliste, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose une inadéquation, je dirais, entre ce que, au niveau de la planète, je dirais, avec des pays qui ont encore des difficultés à accéder aux soins, dans certains pays où il n'y a pas même de soins pour les malades du VIH, et de voir que notre assurance maladie va rembourser finalement ce qui pourrait prendre pour de la... Enfin, bon...
Oui, après, et l'argument qu'on peut entendre aussi...
Parce qu'il y a la capote, on va dire, prenez une capote, et puis voilà.
Ce à quoi on va retorquer, enfin, on va le dire, mais est-ce qu'il vaut mieux pas, finalement, quelqu'un qui prennent un traitement préventif qui coûte aujourd'hui 500 euros par mois, en gros ça va être ça, 500 euros pour 30 comprimés, plutôt que quelqu'un qui est contaminé au VIH et qui a un traitement qui va te coûter le triple chaque mois, pendant toute sa vie. Voilà, cet argument-là, on peut l'entendre aussi, financier. Après, c'est pareil, moi je trouve qu'on ne prend pas forcément le problème dans le bon sens, parce que là encore, finalement, on ne va pas interroger les personnes sur pourquoi, à un moment donné, tu prends un risque. Pourquoi est-ce que tu es vraiment satisfait de ta sexualité? On va parler après, nous, de santé sexuelle, justement, les entretiens qu'on mène. Et nos entretiens, ils sont basés là-dessus. Nous, on rencontre des personnes qui prennent des risques, ce qu'on appelle à haut risque, etc. Mais nous, voilà, la première question qu'on va leur poser, c'est finalement, est-ce que tu es satisfait aujourd'hui de cette sexualité-là? Et finalement, on se rend compte dans 90% des cas qu'il y a une insatisfaction, qu'il y a un vrai malaise, qu'il y a un mal-vivre de cette sexualité, qu'il y a parfois, dans certains, on est dans un comportement où je me fais du mal, je me punis, et ça, on ne l'interroge pas. C'est-à-dire, on se dit, le mec, il est multipartenaire, il prend plein de risques, etc. Bon, finalement, c'est bien, il n'a pas l'air de s'en plaindre, on va l'aider à continuer dans cette pratique-là. Bon, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas.
Alors, justement, très concrètement...
Je vais interroger un peu les pratiques.
Ça me permet de... Parce que, encore une fois, malheureusement, l'heure tourne, mais ça me permet de faire l'enchaînement, je dirais, sur le centre de santé sexuelle qu'on a évoqué, que tu viens de réévoquer à nouveau. Donc, justement, quel est l'intérêt du centre de santé sexuelle, justement? On en avait déjà parlé, et ça continue, donc ça prend forme.
Alors, aujourd'hui, ça fait un an, l'expérimentation.
Tu étais venu, il y a un an.
J'étais venu il y a quasiment un an, donc ça fait un an au mois d'octobre. Là. On a eu à peu près, alors maintenant la permanence, c'est toujours une permanence par semaine qui tourne relativement bien, parce qu'on n'a que 4 à 5 personnes par permanence. Donc on a vu en tout entre 40 et 50 personnes sur l'année, parce qu'il y en a qui reviennent quand même régulièrement. Et 90% à peu près population gay. En tout cas chez les personnes qu'on reçoit, enfin, ouais. Ou HSH, on va dire HSH.
Ouais, ouais. D'accord.
Et c'est vrai que des entretiens qui vont un peu du problème de l'érection jusqu'à l'insatisfaction de la sexualité, je prends des risques, j'arrête pas, j'ai plein de partenaires mais j'en ai marre, comment je fais pour arrêter. Enfin voilà, c'est toutes ces questions qu'on va traiter au sein du ouais. centre de santé sexuelle. Donc moi, je travaille toujours avec Pierre Chiarello, donc le médecin, qui vient aussi faire les consultations avec moi. On a toujours Andrea du collectif Lesbiens Lyonnais qui vient avec nous une fois par semaine pour accueillir les femmes et les personnes trans. Donc ça marche, il y a du bouche à oreille qui commence à se mettre en place, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues nous voir sont satisfaites a priori, donc on parle à des amis qui nous ramènent des amis, etc. Donc ça fonctionne bien et c'est vrai que les gens sont relativement contents parce que c'est une... Déjà on les écoute, on prend du temps, chose qui n'est pas forcément le cas par exemple à l'hôpital où c'est vrai que les entretiens sont limités dans le temps. Là c'est des entretiens qui peuvent durer une heure et demie. Pour certains, alors ceux qui reviennent régulièrement, ils savent qu'ils ont leur rendez-vous tous les 15 jours ou par mois, ils vont vouloir se poser tranquillement, pouvoir parler de leur sexualité. Parfois en couple, on a des couples maintenant qui viennent, des couples de gays, hein, qui viennent nous parler un peu leur sexualité. C'est des vrais moments, en tout cas, on va au-delà de la prévention, parce qu'on est vraiment là pour le coup, à la fois dans le soin et puis dans le suivi. Alors on n'est pas des psys non plus, mais dans un suivi qui prend vraiment en compte la personne, qui prend en compte aussi ses attentes, ses envies, etc. En tout cas, c'est une belle expérience. Alors, on va déménager, par contre. C'est-à-dire qu'on va avoir des locaux maintenant qui nous sont propres et qui vont donc rue du Griffon, en fait, à la place de l'association Basiliade qui a déménagé.
D'accord.
Et du coup, ça va être un lieu affecté vraiment à la santé sexuelle.
D'accord. Et ça, quand vous déménagez là ?
Normalement, fin d'année, là. Donc,
d'accord.
Ça va se faire sur le mois de décembre ou début janvier. Mmh. Avec aussi dans l'esprit, l'idée, c'est de mettre en place des groupes de parole.
Ouais.
Un peu thématiques. il va y avoir une thématique sur les personnes victimes de violences sexuelles. On s'est rendu compte que chez les HSH, il y avait beaucoup de personnes qui avaient été victimes de violences sexuelles. Mm-hmm. En tout cas, nous, on en reçoit beaucoup. Et qui souvent n'osent pas en parler. Mm-hmm. Nous, on n'en a même jamais parlé. On va aussi avoir un groupe sur les addicts sexuels. En tout cas, des personnes qui se déterminent comme telles. Mm-hmm. Ou addict via par exemple, les applications ou même dans les rencontres. Donc plusieurs groupes de parole comme ça qui vont se mettre en place au fur et à mesure.
D'accord.
Et puis l'idée d'élargir aussi les consultations.
De toute façon, on reliera l'information, donc, et puis on mettra... Alors je rappelle, l'ALS, c'est toujours rue Pizet.
Oui.
Alors justement, les 30 ans d'ALS, on va revenir un peu au point de départ de l'émission, rapidement. C'était donc l'occasion, enfin le 1er décembre, la journée de lutte mondiale contre le sida, le VIH. C'était aussi l'occasion d'un événement particulier pour célébrer les 30 ans de l'ALS, qui devait avoir lieu, donc le 1er décembre, c'était un mardi, mais qui a été annulé à cause des événements. En fait, il y avait une véritable fête de rue, en fait, qui avait été organisée.
Voilà, l'idée cette année, c'était de rendre l'événement, alors toujours en gardant dans l'esprit du 1er décembre, la mémoire.
Vous deviez faire la chaîne, notamment,
la chaîne de solidarité
humaine,
etc.
Voilà.
Mais d'y rajouter un petit côté festif, entre guillemets, festif,
de la musique,
garder, mais du mettre de la musique, d'attirer, il y avait une batucada prévue, il y avait un groupe, il y avait une fanfare des Balkans, il y avait
tous les commerçants
de la rue s'étaient associés
à l'événement.
D'ailleurs, je les remercie encore. Les bars, les restaurants de la rue Pizet accueillaient chacun une association différente, partenaire, avec la possibilité de faire des petits stands, de tenir une petite buvette devant leur bar, etc. Donc, il y avait vraiment un vrai engouement là, dans la rue. Et puis, on a eu l'info hier.
Comme quoi, c'est la préfecture qui vous donne l'info ?
Non, c'était la mairie qui a préféré... la mairie nous autorisait toujours à le faire, mais en enlevant tout le côté justement un peu festif.
Ouais.
Et,
pour éviter l'agglomération.
Il fallait éviter qu'on...
population, qu'on, en un même lieu.
Finalement, qu'on mobilise beaucoup de personnes. L'objectif quand même du 1er décembre, c'est de mobiliser le plus de personnes possible, d'être le plus visible possible. Donc nous, on a dit dans ces conditions-là, si c'est juste pour se retrouver entre nous, associations, dans les bars partenaires, ça n'a aucun intérêt. On sait que le mardi soir, c'est pas un soir où les gens sortent de manière vraiment voilà, voulue. Et là, on s'est dit, bon, bah, si on n'a plus le concert, si on n'a plus la musique, etc., les gens ne viendront pas. Et c'est quand même dommage, c'est aussi, voilà, on voulait partager ce moment-là avec le plus de personnes possible. Et bah, donc, on a décidé de reporter donc, cette action, en attendant que les choses se calment un peu, de reporter cette action donc, autour du site d'action le premier week-end d'avril
2016. Voilà. Bon, ben voilà. Nous avons fait un peu le tour de la question. On aura encore beaucoup de choses à dire, mais tu reviendras de toute façon, certainement.
Le temps passe trop vite.
Voilà, c'est ça.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.